Le menteur. Quel titre extraordinaire pour une pièce de théâtre, vous en conviendrez. Eh bien, cette pièce de théâtre, nous la devons à Pierre Corneille, ce dramaturge du XVIIe siècle que vous connaissez à n'en pas douter. Mais si, le Cid, souvenez-vous. Chimène, amoureuse de Rodrigue, Rodrigue, amoureux de Chimène, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais dans ce grand bonheur, on craint un grand revers. Et on a bien raison de craindre, puisque patatras, tout s'effondre. Les deux pères se querellent, et voilà nos deux amoureux plongés dans le plus profond des dilemmes, cornéliens bien entendu. Mais laissons là Chimène et Rodrigue entre tragédie et comédie, et intéressons-nous à ce menteur. C'est la dernière comédie créée par Pierre Corneille au Théâtre du Marais en 1644. Corneille, sa carrière bien achevée et bien assise, consent à redescendre vers la comédie. Ce genre un peu méprisé à l'époque, considéré comme moins noble que la tragédie, mais ce genre que Corneille n'a jamais vraiment renié. La comédie, vous pouvez le sentir dès ce titre, est centrée sur un caractère. Dans Le Menteur, le personnage principal, Dorante, est avant tout, inextricablement, indécrotablement, un menteur. Il est menteur comme on respire. Il est menteur comme on est grand, petit, blond, roux. C'est sa qualité unique. Ce type de personnage, ou ce personnage type, fait partie du terreau de la comédie. Pensez à Molière et à son avare, toujours avare. À ses précieuses ridicules, qui seront ridicules quoi qu'elles fassent. À son misanthrope, qui fuirait la compagnie d'un être humain jusqu'au fond du désert. Pensez maintenant à toutes les merveilleuses possibilités théâtrales que permet la rencontre d'un menteur et d'une scène. La scène, ce lieu de toutes les illusions. Et Corneille, auteur de l'illusion comique, le sait mieux que personne. La scène, là où tout est faux pour mieux paraître vrai, est aux mains d'un menteur. En d'autres termes, le mensonge devient la mécanique de la comédie. Il y a bien sûr une intrigue amoureuse. Dorante, de retour à Paris après des études de droit à Poitiers, autant dire au fin fond d'une province boueuse du royaume, veut se faire une place à la capitale. Et il sait que pour faire cette place, il va falloir endosser le costume de la société parisienne et de ses faux-semblants. Il faut jouer un rôle pour être un bon Parisien de la bonne société. Et bien qu'à cela ne tienne, Dorante jouera un rôle. Cette intégration à Paris est la première raison de ses mensonges. Être digne de vivre à la capitale et s'y sentir considéré, cela demande un petit peu d'arrangement avec la vérité. Dorante s'invente donc une carrière fabuleuse dans le métier des armes et il s'en sert immédiatement pour séduire une belle jeune fille opportunément croisée au jardin des Tuileries. Le jardin des Tuileries au XVIIe siècle, c'est le haut lieu de la drague parisienne pour la bonne société. Ainsi donc, pour lui plaire, il a voulu paraître non pas ce qu'il est, mais ce qu'il veut être, nous dit le texte. Cette intrigue amoureuse devient vite soumise à la mécanique du mensonge dont je vous parlais. Parce que pour séduire la belle, il faut la rencontrer. Et pour la rencontrer et pousser son avantage, comme on disait à l'époque, il faut échapper aux volontés du père, Géronte, qui en bon père de comédie a prévu un parti convenable pour son fils Dorante. Mais pour échapper à son destin tout tracé, Dorante doit maintenant recourir non pas à un mensonge offensif, comme tout à l'heure, lorsqu'il a dû s'inventer une vie pour attaquer la société parisienne comme une forteresse à conquérir. Non, il lui faut à présent un mensonge défensif qui va lui permettre de résister à un coup du sort, en l'occurrence le mariage prévu par son père. Mais il faut faire vite. Que dire, que répondre ? Eh bien, père, je ne peux pas vous obéir parce que je suis déjà marié. Oui, j'ai épousé une jeune fille à Poitiers pendant mes études. Voilà le mensonge. Vous imaginez le père ? Il s'emporte. Comment ? Épouser une fille sans le consentement de son père ? Voilà qui dépasse l'entendement. En conviendrez-vous ? Eh, il faut bien en convenir, puisqu'à l'époque, c'est ainsi. À partir de là, la mécanique est enclenchée. Le mensonge ne sera plus ni offensif ni défensif. Il devient une véritable question de survie. Vous avez dû le remarquer vous-même dans votre vie quotidienne. Un mensonge, c'est comme un iceberg. Il n'émerge et ne tient debout que s'il est soutenu par une masse de mensonges encore plus lourdes qui vont le stabiliser et l'alimenter tout autant. « Oh, l'utile secret que mentir à propos !» s'exclame la pièce de Corneille. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Ayant menti pour éviter le mariage promis par son père, Dorante doit à présent mentir pour justifier le mensonge qu'il vient de faire. Et l'on en arrive à une scène hallucinante et absolument brillantissime dans laquelle Dorante va devoir expliquer à son père pourquoi il s'est marié. Je vous la résume en quelques mots. « Si Dorante s'est marié, dit-il, c'est parce qu'il y a été poussé par la violence, puisqu'il a été surpris dans la chambre de la jeune fille avec qui il était venu discuter. » Oh, à l'époque, il n'est pas question pour l'honneur de la dame d'admettre qu'un jeune homme ait pu lui rendre visite comme ça de manière nocturne. La seule manière de se sortir de cette situation, c'est de mourir ou de l'épouser, ce qui remettrait les choses en ordre. Vous pourriez vous dire qu'une telle excuse aurait pu suffire. « Père, j'allais mourir si je ne l'épousais. » Mais c'est méconnaître Dorante. Dorante, pour justifier cette situation, va dire que oui, il a bien cherché à se cacher derrière le lit de la dame, mais que malencontreusement, au moment où son père est entré dans la chambre, le père de cette dame, sa montre a sonné. Il était pris, pensez-vous ? Mais non, pas encore. La belle a eu la présence d'esprit de dire que cette montre appartenait à un cousin qui lui avait confié et pour la faire réparer. Le père réclame la montre, il veut des preuves. Dorante sort sa montre et essaye de la passer à la belle, qui la donnera ainsi à son père. Tout va donc s'arranger. Mais non, en faisant ce mouvement, Dorante actionne son pistolet, le coup part. Il tire. Tout le monde s'ameute. On le découvre, il est pris. Et ça marche. Ça marche ? Oui, oui, ça marche, bien sûr. Mais une autre grande loi du mensonge que vous avez peut-être également éprouvée, c'est qu'un mensonge, plus c'est gros, plus ça passe. Après ce morceau de bravoure, on en arrive à ce qui fait, à mon avis, le génie de cette pièce de Corneille. Son écriture en miroir, ou plutôt en boule à facettes. Le mensonge se multiplie, se reflète, se réfracte en petits mensonges qui s'interpénètrent les uns les autres et permettent de duper ceux qui croyaient justement duper tout leur petit monde. Dorante lui-même, en effet, qui vient d'hypothéquer sa relation avec son père pour sauver sa belle aventure, ignore qu'il confond celle qu'il aime avec sa cousine. Les deux jeunes filles ont en effet choisi d'inverser leur identité pour se moquer de lui et le mettre à l'épreuve. Alors, en défendant celle qu'il croit aimer, Dorante refuse celle que son père lui destinait et qui était pourtant la jeune fille de ses rêves. Voilà notre menteur dupé. Chacun se débat dans le mensonge de l'autre. La vérité se déguise et se cache. Elle est parfois moins crédible et moins belle que le mensonge. Vous l'aurez compris, ce jeu virevoltant sur le mensonge est profondément comique. Mais comme toujours dans une grande comédie, il entre dans une esthétique et nous ouvre à la réflexion. L'esthétique, c'est le baroque, encore triomphant dans la France de la fin du règne de Louis XIII. Par baroque, on entend ici une esthétique faite de mouvements perpétuels, de reflets, d'illusions, de renversements des évidences. Un artiste baroque ne voit que courbes, reflets, mouvements partout. Il préfère l'illusion du réel au réel solide et bien en place. Décrivant le ciel se reflétant dans une rivière, un poète baroque écrit ces deux vers que je trouve admirables. Et les hôtes de l'air au plumage divers, volant d'un bord à l'autre, y nagent à l'envers. Vous avez ici, à mon avis, toute l'esthétique baroque. Les oiseaux du ciel sont vus par l'artiste comme d'étranges poissons ailés qui nagent à l'envers dans la rivière. Et cette image, qui n'est qu'une illusion, qui n'est qu'un reflet, est peut-être première et existerait donc plus que la réalité de ces oiseaux volant bêtement au-dessus de l'eau. A-t-on affaire à des poissons ailés? A-t-on affaire à des oiseaux munis de nageoires? Peu importe, puisqu'on peut avoir affaire à tout cela en même temps. Cette esthétique nous amène à une réflexion sur l'illusion et les faux-semblants, qui, souvenez-vous, ont présidé à l'arrivée de Dorante à Paris. S'il faut mentir à ce point pour vivre à Paris avec la bonne société, que vaut donc cette société reflétée dans un mensonge permanent? En d'autres termes, si tout le monde triche à la table de jeu, que gagne-t-on à être honnête? Cette question, Corneille continue de la poser au metteur en scène qui s'empare de sa pièce aujourd'hui. Julia Vidi, avec sa compagnie, nous livre une mise en scène que vous verrez sans doute au théâtre de Charleville-Mézières. Écoutons ce que nous dit Julia Vidi sur la rencontre avec cette pièce et sur la manière dont elle a imaginé avec son scénographe un dispositif qui permette d'en faire exploser à nos yeux l'esthétique baroque et la question de la vérité.
Ce qui guide tous ces choix, c'est la question d'abord d'aller au cœur de la pièce avec mon regard de femme de 21e siècle. Donc, c'est-à-dire, moi, je monte Corneille. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de monter Corneille comme il a été monté à l'époque. Déjà, je suis bien incapable de le faire, ce n'est pas ma spécialité. Mais c'est de dire comment cette pièce s'adresse à vous aujourd'hui. Comment, moi, je suis le relais d'une pièce qui a été écrite dans un contexte et qui me paraît résonner avec le contexte d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Donc, une fois qu'on se pose cette question-là, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire à mes concitoyens aujourd'hui avec cette pièce, quoi. C'est-à-dire, oui. Voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, quoi. Alors après, il y a des questions, moi, qui me paraissent importantes. Déjà, je suis une femme, donc se pose la question du genre. Dans le théâtre classique, les hommes sont souvent très bien servis, les femmes beaucoup moins. Donc moi, il m'a paru intéressant de remettre un rôle féminin, de l'épaissir un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait avec le rôle de Lucrèce. J'ai doublé, en fait, j'ai fait qu'un seul rôle avec Lucrèce et sa suivante.
Oui.
Pour que, du coup, on ait une cousine de Clarisse beaucoup plus forte, beaucoup plus avec une personnalité beaucoup plus claire. Et donc, elle se grime en suivante. Et j'ai rien fait d'autre que de rassembler les deux rôles. Et ça fait d'elle une menteuse par travestissement. Donc, ça offre un double à Dorante féminin.
Oui.
Ça, je trouvais ça intéressant et ça redonnait aux femmes un peu d'épaisseur. Après, j'ai distribué le rôle de Cliton, le suivant de Dorante, enfin son compagnon de route, quoi, un peu comme un peu Sganarell.
Oui, c'est ça, le Sganarell de Don Juan, complètement. Oui.
Voilà, je l'ai distribué à une femme qui est extrêmement androgyne, donc il y a un trouble dans le genre qui me paraît intéressant, parce que moi, je pense que on va vers une ligne beaucoup moins nette entre le féminin et le masculin, et donc je trouve ça intéressant aussi que ça soit pas une question. Il y a aussi le fait de se dire pourquoi je monte une pièce dans l'Alexandrin. Alors oui, effectivement, l'Alexandrin, c'est beau, ok, c'est un vers qui sonne très très bien aujourd'hui et avec notre langue, il n'est pas démodé en ce sens que c'est comme la musique, quoi, c'est beau et la beauté excuse le passage des siècles. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant de se dire que ça allait renforcer le pari. La ville de Paris, en ce sens du monde imaginaire ou du monde de Dorante. C'est-à-dire, Dorante arrive dans un monde où on parle comme ça, comme c'était une règle sociale, c'est-à-dire oui. Un code langagier, quoi. Et du coup, je me disais que c'était aussi un enfermement, cette langue. De la même façon que aujourd'hui, quand si je vais dans une cité ou un quartier populaire, je vais avoir des codes de langage qui sont pas les mêmes que dans un quartier bourgeois, etc. Et donc cette ville, elle parle comme ça. Elle parle en alexandrin. Donc ça me paraissait intéressant qu'il y ait à un moment donné une envie de sortir de ce carcan et d'aller vers la prose, mais c'est extrêmement court. Voilà. Et ça se fait dans une scène entre les deux femmes,
oui.
Donc, où là, Corneille est très, pareil, très en avance sur son temps, ce qui fait quand même échanger les deux femmes entre elles, où elles se disent des choses assez intimes et de façon assez honnête. C'est-à-dire qu'en gros, l'une dit à l'autre, mais je l'aime pas, je préfère Dorante, même si c'est un menteur, je l'aime, enfin, il me plaît, j'ai du désir. Donc, elles se permettent de dire des choses alors que, à l'époque, j'ai à 16 ans, on est marié avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Donc, elles se disent des choses. Et moi, avec le dramaturge et l'auteur avec qui je travaille, Guillaume Caillé, on a poussé plus loin cette scène où elles vont plus loin. Il y en a une qui quitte la convention de langage. Celle, d'ailleurs, qui est attachée à la question de la vérité, de l'amour, beaucoup plus que Lucrèce, qui est une grande joueuse, quoi.
Monsieur, votre ordinaire est-il de rêver en parlant Où me vois-tu rêver ?
J'appelle rêverie ce qu'en d'autre qu'un maître on nomme menterie. J'avais donc vu l'Allemagne et la guerre.
Je m'y suis fait 4 ans craindre comme un tonnerre. Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse honnête, belle.
Ah, monsieur, je suis
toi.
Je suis donc marié.
Sans mon consentement, on m'a violenté.
Je vois rage de me taire et d'entendre mentir.
Le mensonge n'existe pas. L'illusion n'existe pas.